France Inter.
Autrice, dramaturge, metteuse en scène, directrice du Théâtre National de Strasbourg, dont elle est aussi diplômée et où elle enseigne. Caroline Guyella Nguyen est également artiste associée à la Schaubühne de Berlin et parfois réalisatrice. Elle a adapté des textes de vivants comme Caroline Mazzini lors de sa première création « Ce souvenir de Violetta » ou Mariette Navarro avec laquelle elle a signé le texte d'Elle brûle. Elle a aussi été inspirée par de chic types décédés comme Euripide ou les frères Grimm. Le chagrin et l'exil traversent son œuvre. En 2016, elle met en scène « Mon grand amour ». En 2017, Saigon, joué plus de 300 fois dans 15 pays différents, installant ses personnages dans le Vietnam de 1956 et le Paris de 1996. J'ai parlé de Chagrin, c'est d'ailleurs le nom d'une de ses créations. Et d'ailleurs, elle se lance à présent dans une histoire contemporaine des larmes, avec comme premier opus Lacrima, en ce moment au Théâtre de l'Odéon, puis en tournée, et qui raconte les histoires de toutes les mains qui vont toucher la robe commandée par la princesse d'Angleterre pour son mariage. Le spectateur est plongé dans les coulisses de la maison de haute couture française chargée de sa réalisation à Paris, mais aussi parmi les dentelières d'Alençon et les brodeurs de Mumbai en Inde. Chaque artisan impliqué est soumis à une violente pression. Enjeux financiers, légaux, matériels et personnels sont entremêlés avec une grande sensibilité. On prend conscience des sacrifices que tant d'hommes et de femmes sont prêts à accomplir pour se mettre au service du beau et du grand, à moins que le beau et le grand se situent en eux plutôt que sur une robe. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Caroline Guyella Nguyen.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Waouh! Quelle est la dernière chose qui m'a enthousiasmée? Oh ben là, c'est tout simple. C'est d'être revenue à Paris et d'avoir retrouvé l'équipe de Lacrima. Je suis très enthousiaste à chaque fois de voir cette équipe parce que je les aime beaucoup et c'est joyeux de commencer l'année avec eux.
En 2015, vous avez monté Le Chagrin autour du deuil. En ce moment, c'est Lacrima, larme en latin. Est-ce que vous pleurez facilement et ou souvent?
Ça dépend de la période de ma vie. En tout cas, je ne me l'interdis pas du tout. En tout cas, je pleure devant des films. Là, hier, par exemple, j'ai vu le film de Scorsese que j'ai découvert avec ma fille sur Méliès et j'ai beaucoup pleuré. Puis, l'actualité actuellement peut aussi me faire chialer. Bon, bref, en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie, comme c'était présent dans la vie de mes parents aussi. Voilà.
Est-ce que vous pleurez bruyamment, silencieusement, spectaculairement ?
Je sais pas. Par contre, ce que j'aurais envie de dire sur les larmes, peut-être, c'est qu'en fait, je crois que dans les spectacles que je fais, j'aime provoquer des larmes qui finalement invitent les gens à ne pas aller se réfugier dans leur chambre pour pleurer. Finalement, les larmes derrière le spectacle, derrière Lacrima, derrière Saigon, je remarque souvent que les gens ont envie de rester et de les partager. Et je crois que c'est peut-être ces larmes-là que je cherche et que même moi, je me provoque. En
des larmes
sorte.
De communion, des larmes qui rassemblent.
Ouais.
Vous n'hésitez pas dans votre œuvre à montrer la douleur. C'est une chose que vous n'avez jamais fui comme sentiment.
Bah, elle est là. Je ne sais pas si... c'est marrant, le mot de douleur, je crois que je le prononce rarement.
Moi, ouais. Personnellement, j'ai ressenti ça.
Ouais.
En regardant Lacrima.
Ouais, bien sûr. Mais même, il y a des douleurs physiques, très concrètement, dans Lacrima. Ce que je cherche, je crois, c'est de voir quelles sont les peines que j'ai besoin de raconter et c'est comment ces peines-là sont créées, en fait, des échos dans le public. Comment est-ce que, finalement, je crée un espace de... On parlait de communion, mais en tout cas de rencontre dans lequel, en fait, des gens sont là et disent, y a-t-il quelqu'un pour écouter ma peine, en fait ? Y a-t-il quelqu'un pour la recevoir ? Et c'est vrai que comme je m'intéresse, mais de façon vraiment instinctive, hein, c'est pas du tout un plan, on va dire, stratégique, calculé de ma part, c'est vraiment quand je sens qu'en fait, je suis attirée comme ça par des histoires qu'on ne m'a pas racontées, en fait. Et c'est vrai que, du coup, quand je sens que ces histoires-là ne sont pas encore dans le domaine public, comme par exemple l'histoire des brodeurs indiens, ben, j'ai envie de voir, en fait, si les peines ou les douleurs, du coup, de ces personnes-là, ces visages-là, y a-t-il des gens, en fait, pour les regarder, pour les accueillir, quoi.
Justement, vous avez une expression, c'est « laboratoire de fraternité ». Il s'agit de lieux très spécifiques, vous pouvez développer ?
Ce que j'aime dans le métier, là je parle de mise en scène, Moi, j'ai une chose qui me fait très peur dans ma vie, c'est l'entre-soi. C'est quelque chose pour moi qui est vraiment mortifère. Sûrement parce que les tables de mon enfance étaient faites tellement de réalités sociales, culturelles, spirituelles différentes que les moments de ma vie où je me suis retrouvée finalement avec des gens très 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 semblables, ça m'a créé des formes d'étouffement. Et donc, je sais que très vite, je me suis dit qu'en fait, je devais être conséquente avec les équipes que j'allais rassembler. Et que finalement, j'ai besoin, dans ces moments qui sont les temps de création, où on passe quand même 1, 2, 3 mois, puis après 2, 3 ans, 4 ans, ça fait depuis 8 ans qu'on le tourne, ben j'ai envie en fait que ces espaces-là, dans lesquels il va y avoir une quinzaine de personnes réunies, et ben, il puisse y avoir ces personnes où à la base, ben, il n'y a pas du tout de connexion entre elles. En fait, elles viennent vraiment de paysages, oui, social, culturel, spirituel, comme je disais, géographique, très différents, et que même au début, on se dise waouh, mais comment toutes ces personnes vont se mettre à se parler, en fait. Au début, moi, j'ai toujours un vertige. Dans mes équipes, quand elles arrivent, mais de tout le temps, Lacrima, Saigon, Kindai's Archive, le Fraternité, j'ai le vertige que je me dis, en fait, ça ne marchera jamais. Le commun entre ces gens, on n'y arrivera pas.
On dirait que vous le cherchez presque, puisque vous faites des mélanges.
Je le cherche, ouais. Ouais. Je le cherche, je le provoque, ouais. Mais je vais même très loin. Et après, ben voilà, c'est comment est-ce qu'on va réussir à créer un commun. Et ce qui est très réjouissant, c'est que ce qui crée le commun, c'est pas les verres qu'on va boire après, c'est pas ça, c'est évidemment c'est là. Mais en fait, ce qui crée le commun, c'est la fiction, c'est l'histoire en fait, c'est le récit qu'il y a entre nous.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Nous avons lu quelque part « Dada naquit sur les lèvres de Tristan Tzara » le 8 février 1916 à 6 heures du soir au Café Terrasse à Zurich. Avez-vous des commentaires, Monsieur Tzara ?
Bien, c'est la légende qui le dit, n'est-ce pas ? Maintenant, si c'est vrai ou non, ça je ne pourrais pas vous préciser puisqu'il y a déjà si longtemps et que la légende s'est implantée d'une manière tellement forte dans l'esprit de tous les gens qu'on ne croirait pas. Mais ce qui était important, c'était le fait que nous cherchions le titre d'une revue qui ne signifie rien.
Je suis avec la dramaturge, metteuse en scène et directrice du TNS, Caroline Guyella Nguyen, et l'on entend une interview de Tristan Tzara en 62 sur Radio-Canada au micro de Wilfried Lemoine. Son recueil « L'homme approximatif » a inspiré le nom de votre compagnie « Les hommes approximatifs » fondée en 2009. C'est quoi pour vous un homme approximatif ou un être approximatif ?
C'est tout le monde, en fait. C'est quelque chose qui est bancal, quelque chose qui est dans le doute, quelque chose qui est à la recherche, quelque chose qui a besoin de l'autre. Moi, par exemple, je suis incapable de mettre en scène des monologues. Vraiment, la forme du monologue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse parler tout seul.
Et vous ne l'appréciez pas, vous, en tant que spectatrice ?
Si, bien sûr, je peux d'ailleurs. Mais c'est marrant, là, on a eu au Théâtre National de Strasbourg, il y a eu deux performances, je pense à Eric Feldman ou à Lorraine Marx, qui sont venus, justement, ils sont seuls en scène, mais en fait, ils nous parlent. En fait, ils sont seuls à la fois, mais à la fois, ils sont dans une adresse très concrète. C'est d'ailleurs aussi des artistes qui s'inspirent, enfin, qui parlent du stand-up, donc il y a quelqu'un d'autre dans la salle avec eux. Moi, c'est le principe d'être... j'ai plus un problème de compréhension, c'est pas aimer ou pas aimer, mais je comprends pas quand, effectivement, il y a quelque chose plus du monologue, ou même, vous savez, les douches au théâtre, quelque chose qui ferme un rond autour d'une personne, c'est quelque chose qui me parle pas. Je pense qu'en fait, il y a besoin, pour moi, le théâtre, c'est le besoin de l'autre. Enfin, même quand on raconte... Je parlais tout à l'heure, justement, de ces communautés comme ça éphémères autour des créations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est jamais de recruter un comédien. Ce qui m'intéresse, c'est de recruter, là, par exemple, Dina et Maud. Me dire, mais ça va être quoi, en fait ? Comment est-ce qu'elles vont se parler, Dina et Maud ? D'imaginer cette femme, pieds noirs, tunisienne, avec Maud, qui est comédienne, bretonne. Enfin, je sais pas, tout d'un coup, ça m'inspire de m'imaginer les rencontres. En fait, c'est ça, pour moi, je crois, des hommes approximatifs. C'est que finalement, il manque quelque chose et qui est quelque part dans l'autre, quoi, voilà.
Et ce qui est amusant, c'est que vous n'aviez pas lu le recueil, vous aviez simplement vu le titre. Ouais. Et en fait, c'est dans l'approximation, donc le vague, que vous avez eu un sentiment de clarté, puisque c'est là que vous vous êtes dit « c'est mon programme ».
Oui, oui. J'étais jeune, hein, il me fallait un nom de compagnie, mais c'est vrai que celui-là, il nous a apparu très clair dans ce vague, ouais, effectivement. Mais comme un titre, en vérité, Lacrima, Le Chagrin, même Saigon, en fait, il y a toujours une part de mystère dans un titre, en fait. Je peux jamais vraiment l'expliquer. C'est cette part manquante, cette part un peu même programmatique, effectivement. Moi, Lacrima, quand j'ai commencé, enfin, c'est 2-3 ans avant qu'on me demande un titre, franchement, je sais même pas encore exactement de quoi ça va parler, mais du coup je lance quelque chose et c'est comme me donner un rendez-vous avec demain.
Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine, je me suis assis.
Caroline Guy et Laine Guyenne, en 2017, vous créez Saigon à Valence, une pièce fleuve où l'on pleure en écoutant un Viet Cieu, un Vietnamien résident à l'étranger, chanter Aline de Christophe en karaoké. Vous venez d'une famille vietnamienne et pieds noirs, et vos deux parents ont des histoires en commun d'exil et de cale de bateau. Vous pouvez raconter ?
Ouais.
Non, ça, vous avez fait un ouais, soit comme si vous vous ennuyez terriblement.
Pas du tout, ou c'est
comme
ma
si
passion,
vous aviez pas envie.
Mais non, mais je parle tout le temps de mes parents. Moi, j'adore parler de ma mère, j'adore parler de mon père, c'est ma passion, donc merci
d'accord.
de me l'offrir encore une fois. Donc, c'est très simple. Bah, mes parents ont une histoire avec un bateau, parce que mes parents ont une histoire avec l'exil, parce que mes parents ont une histoire avec la colonisation française, parce que bah, mon père était juif, pied noir. D'Alger, que du coup, en 1900, alors je suis toujours un petit peu nulle en date, mais
c'est
quand il a eu 18 ans, mon père est né en 1924, quand il a eu 18 ans, il est parti donc faire la Seconde Guerre mondiale avec les troupes du général Leclerc.
Il vous a eu très tard.
Et il m'a eu très tard, mon père m'a eu à 60 ans, effectivement. Et puis, quand il a libéré Colmar, d'ailleurs il disait toujours ça à mon père quand il venait me voir au Théâtre National de Strasbourg, quiconque qui a rencontré, d'ailleurs je pense qu'il a même dit à Stéphane Braunschweig à l'époque, j'avais très honte, il disait mais moi j'ai libéré Colmar. Et après avoir libéré Colmar, donc mon père s'est retrouvé à Berlin, il ne sait lui-même pas trop comment. D'ailleurs mon père m'a souvent raconté qu'il ne sait plus où est-ce qu'il a passé ses 19 ans. Et en fait, arrivé à Berlin, bah, du coup les soldats n'étaient pas rapatriés. Et mon père en fait... Bah, du coup, il fallait qu'il rentre chez lui. Sa mère n'avait pas de nouvelles de lui, pensait qu'il était mort. Et il a dû rentrer en fait en stop. Et puis après, il est arrivé à Marseille. Donc, et à Marseille, en fait, un homme, il a dit bah, moi, en fait, je travaille, je suis cuisinier sur un bateau, mais je ne sais pas quel est le bateau que. Enfin, je ne sais pas encore où je vais aller. Mon père a dit bah, tant pis, je m'en fous. Moi, de toute façon, je veux traverser la Méditerranée et je veux retourner en Afrique du Nord et qu'importe. Et il s'avère que, du coup, le cuisinier l'avait rentré dans le bateau et lui a dit bah, tu te caches. Et puis après, quand tu es. On est en zone sûre, tu pourras sortir. Et en fait, il est sorti, il s'avérait qu'il arrivait à Alger, sur le port d'Alger, et là où mes grands-parents, en fait, travaillaient dans un restaurant. Et mon père m'a raconté que ma grand-mère, en le voyant, en fait, est en train de servir sur le port et s'est évanouie. Alors bon, après, voilà, moi, j'ai toujours des histoires comme ça. Je me dis toujours, tiens, quelle est la... Il y a une part fictionnée. Est-ce que ma grand-mère...
C'est très homérique, là.
Ouais, ouais. Mais c'est la vérité, par contre, hein, que du coup, personne n'ait pensé à rapatrier les soldats de l'armée du général Leclerc. Ça, c'est totalement vrai. Et qu'un jeune homme du coup de 19 ans se retrouve à devoir rentrer chez lui tout seul. Bon, voilà. Et ma mère, c'est pareil. Bah, on est en 1956, donc Dien Bien Phu. Enfin, ouais, c'est ça, 55 plutôt. Donc Dien Bien Phu. La France a perdu. Ma mère, du coup, doit partir. Et là, bah, en fait, elle est dans. Dans le Skobrin, qui est donc le bateau qui va l'amener avec sa mère. Son père décide de ne pas venir avec elle, donc ma mère part. Elle est née de 9 enfants, ma mère. Et du coup, elle part avec sa propre mère, et elle est dans ce qu'elle raconte, la troisième classe, ouais, elle est dans le sous-sol. Et ce qui est le grand truc, ma grand-mère et ma mère, quand elles voyaient Titanic, c'était vraiment le film pour elles qui représentait leur traversée du Vietnam. Ça faisait vraiment beaucoup rire. Mais c'est vrai que cette idée d'être comme ça, vraiment, chez les très pauvres, c'est quelque chose qu'elles m'ont beaucoup raconté, et que du coup, voilà, sur l'étage du dessus, il y avait du coup les colons blancs qui eux pouvaient voyager au grand air, alors qu'eux ils étaient à moitié en train de s'électrocuter avec des plaques qui marchaient pas. Et voilà, et ma mère a eu cette histoire là. Plus tard, sa grand-mère est venue aussi cacher dans des cales de bateaux. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup d'histoires de bateaux.
Vous dites qu'on a toujours dit que votre mère était une victime du colonialisme, mais vous dites une chose intéressante aussi, c'est que à force de travailler dessus, être la victime d'une chose nous en donne aussi la connaissance.
Bah oui, non, mais de toute façon, en fait, je veux dire, on est expert de nos drames, de nos tragédies. Enfin, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il faut faire parler les personnes, en fait, qui sont elles-mêmes, qui ont même vécu la colonisation, par exemple. Enfin, pendant des années, on a parlé de la colonisation sans aucun Vietnamien, par exemple. Donc,
il y a du silence.
Parler ces experts du réel, de leur réel, en
fait. Mais dans ces familles-là, souvent, il y a beaucoup de silence. Oui, c'est d'ailleurs dans votre travail, le silence.
Oui, mais en fait, ça, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis moins, et même, je pense qu'il faut un peu moins dire, parce que c'est comme si finalement c'était leur responsabilité à eux. C'est-à-dire que finalement ma mère, dans les familles vietnamiennes en fait, il y a eu du silence, en fait ils parlent pas. Ouais, mais en fait ils parlent pas parce qu'on leur a demandé de pas parler. Moi, ma mère, la première chose d'ailleurs qui s'est passée quand elle est arrivée en France, on lui a demandé de pas parler, puisqu'elle devait pas parler le vietnamien, elle s'est parlé que le vietnamien. Mais donc du coup, on n'en parle pas, c'est silencieux dans les livres d'histoire, on n'en parle pas. Donc oui, dans les familles on n'en parle pas, à nos amis on n'en parle pas, mais en fait tout ça n'est pas de la responsabilité des foyers et d'un espace intime. C'est vraiment une responsabilité politique dont il s'agit.
À 16-17 ans, vous vouliez devenir avocate.
Ouais, c'était mon rêve. Parce que c'est formidable, l'avocat. C'est marrant, j'allais dire que j'ai l'impression de quand même faire un peu cette chose-là. C'est la même, c'est le même mouvement, en fait.
Ah oui, vous donnez la parole.
En fait, c'est d'essayer de se représenter les choses. Je sais que ce que je vous racontais, des espaces chez moi, franchement, c'était tellement chaotique en termes de direction de pensée, en termes de... vous l'avez dit, mais effectivement, mon père m'a eu à 60 ans, donc autant vous dire, par exemple, que toutes les questions de l'émancipation des femmes, mon père était complètement à la ramasse. Enfin, je veux dire, moi, j'étais que dans des contradictions, mais tout le temps. Ma mère était catholique, vietnamienne, mon père juif, mais c'est tout, bref. Et en fait, je voyais bien que l'endroit dans lequel j'étais le mieux, c'était cet espace justement un peu extérieur, dans lequel finalement j'essayais pas de voir qui avait tort, qui avait raison, mais dans lequel en fait j'avais juste envie de trouver l'espace dans lequel ces êtres-là pouvaient trouver leur espace de parole et d'existence, en fait. Et je crois que ça a à voir avec une forme de justice que de faire ça, et je crois que peut-être mon théâtre a à voir avec ça.
Vous dites que vous êtes sortie de votre famille sans grand capital culturel, mais il y a une anecdote quand même où vos parents vous ont emmené très jeune à Paris voir un fil à la patte au Palais Royal. C'était une grande fête et beaucoup d'investissements, puisque c'était 8 heures de route du Toblerone à l'entracte et dormir en banlieue chez des membres de la famille.
Ouais, carrément.
Donc déjà quand même un intérêt pour le théâtre.
Mais carrément. Et puis en plus de dire que je suis sortie à capital culturel faible, en fait, maintenant je le dirai plus. Mes parents sont morts et je le dirai plus comme ça, parce qu'en fait ils m'ont tellement donné, finalement des choses qui... Mais c'est pas la culture, on va dire. Effectivement, je m'en serais pas sortie. Enfin, quand je suis arrivée à l'école du Théâtre National de Strasbourg, j'étais avec des élèves qui, eux, venaient d'un milieu social et culturel très différent du mien. Et évidemment, je voyais bien que j'avais pas du tout les lectures, pas du tout la filmographie, pas du tout même. Pendant très longtemps, je refusais qu'on regarde les musiques que j'écoutais dans mon téléphone parce que j'avais honte. Et donc, effectivement, je voyais bien qu'il y avait un décalage énorme. Mais après, maintenant, je mesure absolument tout ce qu'ils m'ont donné. Mais mon père et ma mère, oui. Et en fait, ils ont vu un jour que j'aimais le théâtre parce que il y avait un petit spectacle de théâtre qui se faisait dans l'école Dr Knock. Ma mère avait aimé. Enfin, j'avais travaillé sur ça, j'avais aimé. Et puis mes parents, ont décidé effectivement de répondre à cet amour-là. Et pour eux, le théâtre, oui, c'était un fil à la patte. Et je m'en souviens de cette fête. C'était tellement joyeux. Et ça, je l'oublie pas. Moi, je pense que le théâtre, c'est de la joie. Hein. Je pense qu'il faut que ça reste cet espace-là. Par contre, c'est important, ouais. I like to keep our love going long. But no matter how much I lied, the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. My pride is my only company. My pride will get the
séparait Caroline Guilla et Nguyen, que petite, quand vous demandiez à votre grand-mère pourquoi il ne fallait pas placer l'argent à côté de la nourriture, elle vous répondait parce que ça attire les fantômes.
Ouais.
Et votre choix musical parle de fantômes, puisque ça s'appelle Ghost Song de Cécil McLaurin Salvante.
Ouais.
Quel est votre rapport aux fantômes?
Je vis beaucoup avec les morts. Vous savez, dans la langue vietnamienne, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Quand on parle des personnes, on parle d'elles du coup au présent, par exemple. Ma mère, c'était la seule erreur de français qu'elle faisait. Quand elle parlait de mon père qui était mort, elle disait mon mari aime manger des pâtes à la bolo, par exemple. Et je m'en souviens que la première fois où j'ai rencontré mon mari, il n'avait pas compris, parce qu'il pensait que mon père était mort. Enfin, il était bien mort, mais du coup, elle parlait de lui au présent. Et je pense que je vis comme ça aujourd'hui, par exemple. Je parle je parle de ma mère et de mon père depuis une demi-heure que je suis à l'émission, ils sont morts.
Vous avez appris le vietnamien et l'arabe depuis ?
Non.
Rien. Vous avez envie ?
Enfin, j'ai envie, j'adorerais, mais je sais que c'est plus possible. Mais je sais même pas parler anglais, ce qui est ridicule. En fait, j'ai un blocage sur les langues.
Mais tout est possible, toujours jusqu'à la mort. Non, c'est vrai, je le pense.
C'est vrai, surtout avec Duolingo maintenant. Mais
j'y suis.
Je sais. Enfin, ça m'étonne pas. Écoutez, en fait, je vais pas réussir à apprendre le vietnamien.
Mais non, mais
je pense qu'il faut que je me le dise.
Non.
Mais c'est.
Mais je m'insurge. Mais oui, mais non.
Mais c'est une langue complètement. Je ne sais même pas prononcer. Vous savez, j'ai un deuxième prénom et je ne vais pas vous le prononcer parce que je ne sais pas le prononcer.
Je ne vous piégerai pas.
Ouais, non, quand même, c'est délirant. Je ne sais pas prononcer mon deuxième prénom. Je ne sais pas le faire.
Sachez qu'on peut se surprendre.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Nous sommes avec la dramaturge, metteuse en scène et directrice du TNS Caroline Guilla Nguyen qui donne à voir en ce moment la pièce Lacrima au théâtre de l'Odéon.
Donc, je suis mandatée auprès de vous pour m'assurer que la robe sera faite selon les normes éthiques définies dans le pacte de transparence internationale.
Ok.
Et vous allez donc devoir fournir à chaque étape de la confection des broderies des documents pour que je puisse m'assurer que tout est en règle.
You Westerners, you want everything. You want the most beautiful dress done in a really short period of time and by the cheapest of embroiderers. And now suddenly you want ethics from us?
Mr. Jean-Laseca, do you have a problem with ethics?
J'ai choisi de passer cet extrait de la captation de la pièce parce que je trouve qu'on voyait bien pas mal d'enjeux.
Mm.
Vous pouvez la contextualiser?
Oui. La princesse d'Angleterre va se marier, elle a commandé cette robe et elle veut absolument que l'entièreté de son voile, de sa traîne, pardon, soit brodée de perles précieuses. Et donc, les broderies dans beaucoup de maisons de haute couture sont faites en Inde, puisque c'est en Inde qu'il y a les plus grands brodeurs, en fait. C'est un savoir-faire qui vient de Perse et ce sont des hommes qui brodent. Et le contexte de cette scène, c'est que on demande en fait à un brodeur, soi-disant finalement pour protéger le travail, mais de remplir des normes éthiques de travail. Alors évidemment, on en a absolument besoin de ces normes éthiques, mais c'est juste que la scène pose un peu la question de qui protège en fait. Enfin, elles sont là pour protéger qui ? Est-ce qu'elles sont là pour protéger vraiment les brodeurs ? Si c'est ça, bon, il y a plein d'autres choses à faire, hein, ne serait-ce qu'avoir des contrats longs avec des sociétés qui permettent d'embaucher sur du long terme des brodeurs, qui permettent du coup de pouvoir avoir un salaire sur... Voilà.
Parce que les délais demandés sont délirants.
Et parce que voilà, les délais demandés sont délirants. Donc, et là, ce qui est dit à ce moment-là de la pièce, c'est en fait, vous voulez tout. Vous voulez à la fois des pièces dans un temps record, avec des choses complètement impossibles, et puis avec le nouveau mot que tout le monde a à la bouche, qui est l'éthique. Voilà.
Vous êtes tombée comme inspiration à cette réflexion sur des articles à propos de la robe de mariage de Lady Di et de la clause de confidentialité et le protocole qui entourait sa conception. Et en parlant de secret, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais il paraît que vous demandez à vos élèves à l'école du TNS de rentrer sur le plateau avec un secret.
Ah oui, mais alors un secret de leur personnage. Hein. Moi, je travaille jamais avec la vie des gens.
Pas comme dans La Maison des Secrets.
Non, moi je veux pas que les gens se fassent du mal. Je leur demande pas systématiquement, mais c'est un exercice d'improvisation qui est assez intéressant de demander au personnage d'arriver et que finalement, ouais, il a quelque chose qui. Voilà, il y a un secret en fait. Et ça fait jouer en fait le secret. Voilà, c'est quelque chose, c'est la zone en fait dans laquelle l'autre va essayer de chercher, qu'on doit. Parce que finalement, le secret, ça nous lie aussi quand même à l'autre. Hein. C'est quand même une question de l'autre tout le temps.
Est-ce que le chagrin est partagé de la même façon au Vietnam ?
Je sais pas. Vous savez, moi, même en ayant écrit Saigon. Et en étant fille de Viet Q, vous savez, je prends très peu parole sur les Vietnamiens, par exemple. J'ai pas l'impression de connaître, en fait. Moi, mon espace de connaissance, il est vraiment sur les Viet Q. Donc, comme vous l'avez dit au début, c'est les Vietnamiens étrangers. C'est cette zone-là, d'ailleurs, à la fois ici, à la fois là-bas, qui m'a inspirée pour écrire Saigon. Mais pas... Le Vietnam en tant que tel, aujourd'hui, je ne le connais pas. Je ne suis pas vietnamienne et je ne pourrai jamais prendre parole sur vraiment, en fait.
En tout cas, vous allez tout de même vous documenter sur les sujets qui vous touchent, qui vous intéressent, que vous mettez en scène. Vous avez passé beaucoup de temps avec Johanna Mauboussin, conservatrice au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à Alençon, avec des dentelières aussi d'Alençon, qui travaillent dans le silence total, on y revient, et dans des associations pour les femmes victimes de violences conjugales.
Alors ouais, j'ai passé beaucoup de temps aussi avec une dentelière qui s'appelle Brigitte Lefebvre. C'est surtout elle que j'ai rencontrée, hein, qui a beaucoup œuvré justement pour aussi faire reconnaître le métier de dentelière. Puisqu'avant, comme ça racontait dans la pièce, en fait, le métier était divisé en plein de parties pour que justement, le secret toujours, pour qu'il y ait, en fait c'est un secret industriel, pour que chaque dentelière ne connaisse pas l'entièreté en fait de l'ouvrage, pour pas que ça fuite. Puis voilà, Brigitte Lefebvre a travaillé, c'est même du coup monter en syndicat pour que du coup les dentelières puissent avoir l'entièreté de leur savoir-faire. Et Johanna Mauboussin m'a beaucoup parlé, oui, elle est conservatrice du musée, c'est par elle aussi que j'ai rencontré vraiment la beauté de la dentelle, et puis aussi en la voyant et en comprenant qu'il fallait pour faire 1 cm² une journée entière de travail.
Ça, vous montrez notamment quand on parle du voile d'Alençon, un voile du 19e siècle.
Ouais, il existe vraiment, je me suis inspirée vraiment d'une pièce, d'ailleurs c'est super intéressant parce que cette pièce, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a été faite. Et en fait, il y a beaucoup de suppositions. Est-ce qu'elle a été faite, par exemple, pour une exposition universelle? Est-ce qu'elle a été faite, commandée par un roi ou une reine? En fait, il y a beaucoup, beaucoup de secrets. Elle porte un secret. Vous voyez à quel point, tout d'un coup, ça crée en fait une envie d'imaginaire. Pendant un moment, d'ailleurs, j'avais une ligne narrative entière sur ça. Et puis, bon, comme je ne voulais pas faire un spectacle de 5 heures, du coup, je l'ai abandonné. Mais oui, du coup, c'est important, le secret.
Oui, parce qu'on suit les vies intimes et les secrets de plusieurs personnages, notamment la première d'atelier de la maison Béliana, Marion Nicolas, ouais. À partir du moment où on lui confie la confection de la robe au résultat final. Ouais. Et on voit dès le début de la pièce, vous prenez le parti de montrer que ça va être... très compliqué, très violent. Très violent. Ouais. Et d'ailleurs, on vous parlait aussi des problèmes physiques, des dentelières qui perdaient la vue.
Oui, à l'époque, elles perdaient la vue, ouais. Puis aussi, il y a un problème aussi de cœur, hein, parce qu'en fait, les dentelières, pour faire ce 1 cm² de dentelle par jour, alors maintenant, évidemment, elles ne perdent plus la vue, et puis elles ne travaillent qu'une demi-journée, en tout cas sur la dentelle, et l'autre moitié de la journée, elles sont sur des ouvrages qui demandent beaucoup moins d'implication des yeux, bref. Mais quand même, pour faire cette dentelle, il faut être très, très, très concentré. Et même, elles en oubliaient même quelquefois de respirer. Tellement la concentration était forte.
C'est un leitmotiv dans toutes vos pièces, respire.
Et à force de ne pas respirer, en fait, elles se créent des formes de tachycardie, en fait. Et donc c'est pour ça que les dentelières, les unes à côté des autres, veillent en fait sur elles. Et dès qu'elles voient qu'une de leurs collègues rentre dans une sorte d'apnée, elle met une main sur une épaule pour leur dire attention, respire.
Là, on va écouter le standard de ce soir et l'injonction n'est pas de respirer, mais de résister.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi si et persiste, résiste.
Résiste, France Gall, dans la 20e heure sur France Inter. Je suis avec Caroline Guiella Nguyen. Un mot sur la musique utilisée dans votre pièce Lacrima.
Elle a été créée par... En fait, ce sont des compositions originales par Teddy Gaulois-Pitois et par Antoine Richard, avec qui, du coup, on crée tous nos spectacles, même Saigon. La musique, c'est toujours des musiques originales, en fait. Et c'est vrai que ça arrive très très tôt dans l'écriture pour moi. Très tôt, on partage tout de suite des listes de Spotify et on se dit du coup, ben voilà, dans quelle direction. Alors bon, moi j'ai toujours un petit peu mes mentors, hein, c'est entre Max Richter, Hans Zimmer, bon voilà. Et après voilà, on compose et ça vient comme ça, comme nous donner aussi, ben, comme le titre en fait, ça me donne, c'est assez programmatique aussi, c'est quelque chose qui me donne un rendez-vous pour demain quoi.
Je suis partie en fait d'un motif qui est central dans ma pratique, qui est le motif de la constellation, qui a toujours été structurant, à la fois d'un point de vue formel, aussi d'un point de vue esthétique, mais aussi parce que c'est déjà une métaphore de ce que ça pourrait être qu'une communauté à venir. Différentes individualités, mais qui sont rassemblées par un récit, où chaque récit a sa propre autonomie, mais qui néanmoins peut former un groupe lorsqu'il se rencontre avec d'autres.
Je vous ai demandé une découverte, Caroline Guiella Nguyen, et vous avez choisi The Constellation, la série de Bouchra Khalili qu'on entend ici en 2023 au Centre Pompidou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Bah moi, je l'ai pas découvert au Centre Pompidou, je l'ai découvert à la Biennale de Venise cette année. Ouais. Bah non, mais j'ai trouvé ça tellement magnifique. Ça m'a enfin, comment raconter en fait, c'est
la cartographie.
Ouais, c'est-à-dire en fait, on rentre dans une pièce où il y a plusieurs vidéos. Et on voit en fait des mains et on comprend que ces mains sont sur une carte géographique en train de nous raconter quels sont le parcours. En fait, ce sont des personnes qui ont vécu des chemins d'exil, hein, des chemins migratoires et donc nous racontent bah, par où ils sont passés, quel chemin ils ont fait, tout ça. Et donc on a plein de mains comme ça et plein de map monde et on passe dans une autre pièce et en fait on n'a que gardé le trajet, on n'a que gardé les traits et les points et ça devient en fait des constellations. Et j'ai trouvé ça très très beau en fait, ça m'a bouleversée.
Dans cette salle, des personnes qui vous aiment ont laissé des messages pour vous. Ils ont été gardés précieusement. Maintenant, vous êtes revenus. Si vous le voulez bien, nous vous proposons de les regarder. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Les messages que nous allons vous montrer ne sont qu'une sélection parmi tous ceux qui vous sont destinés. Il y en a pour plusieurs semaines de visionnage. Mais sachez que ces messages sont à vous et que vous pourrez les regarder à n'importe quel moment.
Ok.
Suivez-moi. Vous pouvez vous asseoir ici.
Merci.
On entend entend un extrait de votre court-métrage Caroline Guillain-Guyenne, Les Engloutis, tourné avec 7 détenus de la maison centrale d'Arles. C'est le premier opus du cycle Fraternité, réalisé après 8 ans de travail à la prison d'Arles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cycle Fraternité et de ce projet ?
J'ai commencé à travailler en prison en 2013 peut-être. C'était Joël Pomera qui avait commencé à travailler avec une personne qui s'appelle Jean Rumi, qui était à l'époque détenu à la prison d'Arles et qui avait envie de monter une pièce à partir d'un texte qu'il avait écrit et qui s'appelait « Désordre d'un futur passé ». Et c'était beaucoup sur la question du temps. Et Jean a travaillé pendant des années et des années à constituer un groupe de théâtre qui se voyait tous les jours pour faire du théâtre. Voilà. Donc on a fait plusieurs projets, il y a eu Marius donc d'ailleurs qui tourne en ce moment, il y a eu Désordre d'un futur passé qu'on a fait, puis après Joël a continué ce pièce de théâtre et moi j'ai décidé de faire ce film. Et ce film, effectivement, a guidé, même ma rencontre avec les détenus, a guidé aussi le projet sur Fraternité, qui est même devenu la pièce derrière, sur la question du temps, effectivement. Et c'est venu de ces... Bah, on parlait tout à l'heure d'experts, de notre réel. Et j'avais l'impression que ces hommes-là étaient des experts du temps. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que... Souvent, ce qu'ils me racontaient, c'était comment est-ce que tout d'un coup, ils voyaient dans un parloir leurs femmes ou leurs enfants. Et à chaque fois, ils venaient et me disaient, mais en fait, ils voyaient des enfants grandir et ils disent, mais en fait, j'étais où tout ce temps, j'étais où, comme s'il y avait finalement des failles spatio-temporelles d'un endroit à un autre du mur, et c'est ce qui se passe en fait aussi. Hein. Et donc j'ai eu envie, alors au début, je savais pas trop sur quoi j'allais travailler, d'ailleurs j'avais amené plein de choses, j'avais amené des choses sur Shakespeare, tout ça, et en fait on est tombé sur quelque chose d'un conte, quelque chose au contraire qui était, j'avais pas du tout envie de raconter la réalité de l'incarcération, j'avais pas envie de prendre par un biais très réaliste, alors que moi je suis plutôt très très ancrée dans le réel, et là étonnamment j'avais besoin de quelque chose qui transcende complètement le lieu où j'étais. Et ça a été ce conte fantastique, la question du temps, l'idée que tout d'un coup des personnes aient disparu et reviennent 20 ans plus tard, et qu'est-ce que ça fait de retrouver leur famille alors que du coup ils ont disparu pendant 20 ans, qu'est-ce que ça fait d'archiver des choses pendant que l'autre n'est pas là, et d'essayer de lui raconter notre vie au cas où il reviendrait. Tout ça, en vérité, évidemment, ça me vient aussi des détenus, mais aussi finalement d'autres personnes que j'ai rencontrées qui étaient...
Les adoptées ?
Bah non, les femmes. Je pense particulièrement à Sandra, d'ailleurs je pense à elle là, qui est la femme de Jean, et qui a passé des années à attendre, et qui a passé des années en fait à continuer en fait à renseigner sa vie pour le moment où du coup Jean sortirait du coup de prison pour lui raconter en fait ce qui se passe, pour qu'il puisse raccrocher à ce moment-là du temps lui et elle. Voilà, et c'est venu de là, je pense, l'idée des Engloutis, donc le film que j'ai fait, puis après l'idée du coup de Fraternité où une partie de la population en attend une autre. Après, si j'en parle 2 minutes de plus, en fait, on voit très bien comment ça peut aussi me parler tout simplement de la question de l'exil, en fait, hein, la question du temps, la question de l'espace et du temps, elle est aussi très... Elle m'a touchée parce que quelque part, il y a des fois, dans ce qu'ils me racontaient ces hommes-là, je me disais, c'est fou, parce qu'en fait, ça pourrait ressembler aux histoires que me raconte ma mère, de je ne sais pas ce que mon pays devient.
On pourrait aussi dire que dans votre œuvre, ça tourne autour du soin.
Oui. En tout cas, Fraternité, c'était clairement tout ce cycle-là. J'avais envie de m'intéresser à la question du soin, c'est vrai. J'ai passé beaucoup de temps dans des centres sociaux. J'avais passé beaucoup de temps aussi, c'était assez dingue avec le bureau des rétablissements. C'est un organe de la Croix-Rouge qui se charge en fait de retrouver des personnes disparues. Et il y a beaucoup en ce moment de personnes qui disparaissent, et entre autres à cause du coup des personnes qui meurent en Méditerranée actuellement, parce que du coup ils essaient de fuir leur pays et en fait ils meurent et on les enterre pas. Et on a des familles qui attendent et qui ne savent pas. Et on a le bureau des rétablissements des liens familiaux, qui en fait se charge d'essayer de retrouver des personnes et de renseigner des familles qui attendent. Et c'est vrai que cet espace-là du soin, mais du soin qui peut aller même juste de dire à quelqu'un, en fait, votre enfant ou votre frère est mort, c'est aussi de respecter ce qu'est l'humain, c'est-à-dire en fait de pouvoir l'accompagner, de pouvoir lui donner une sépulture et de pouvoir dire à sa famille qu'il n'est plus là.
Tout tourne autour de la place, et justement, c'est ce qu'on va écouter maintenant.
Je crois que c'était très important pour moi de ne pas vouloir faire un roman avec l'existence de mon père. Ça m'est apparu comme une sorte de trahison.
Pourquoi ?
Bien parce que quand on fait un roman, on prend un personnage. Ce personnage, ça aurait été mon père. J'aurais fait son portrait, j'aurais parlé de lui très certainement, soit en l'embellissant, vraisemblablement en embellissant beaucoup de choses. Et aussi en faisant des scènes comme si j'y étais encore. La vie de mon père a été une existence qui était vraiment très très pauvre au départ. Vraiment, c'était une toute petite ascension sociale, une vie où là, il y avait beaucoup de gêne. C'est une vie que j'ai partagée et avec ça, on ne peut pas faire de roman. Je crois que pour retrouver, il fallait que je scrute vraiment dans ma mémoire toutes les choses qui m'avaient marqué, travailler sur la mémoire, travailler aussi beaucoup sur tout ce que j'avais entendu étant enfant. Je pense que les mots, les phrases qu'on emploie retracent vraiment le monde où on vit.
Caroline Guiella Nguyen, on entend Annie Ernaux à propos de son livre La Place dans Apostrophe de Bernard Pivot en 84. C'est votre livre de chevet offert par le metteur en scène Guy Alouchery, chez qui vous avez été en stage. Pourquoi ce livre et pourquoi cette autrice est-elle une boussole ?
Parce qu'elle a parlé de réconciliation. J'adore, elle dit en fait qu'elle a passé toute sa vie à essayer de réconcilier les lettres qu'elle écrivait quand elle écrivait à ses parents, ses cartes postales, pour dire pour maman, papa, je vais bien, et les livres qu'elle écrit quand elle est autrice et qu'elle gagne des prix Goncourt. Et j'adore cette idée-là, en fait, de réconcilier ces deux espaces. Et je crois que c'est ce que j'essaye de faire. Et la lecture de ce livre, en fait, et la rencontre de cette femme, enfin, de toute façon, cette femme, je veux dire, elle a marqué, elle a sauvé même des gens, hein. Je veux dire, là, on parlait de soins, Annie Ernaux, je sais pas, je pense qu'elle le sait, mais en fait, elle a vraiment sauvé énormément de gens pour qui elle a donné du courage et de la force pour dire de là où ils sont, de là où ils viennent, comprendre aussi, des différences sociales, d'assumer l'espace d'où on vient, d'essayer de... Voilà.
Merci beaucoup Caroline Guiella Nguyen.
Merci.
Votre pièce Lacrima est jusqu'au 6 février au Théâtre de l'Odéon à Paris, puis en tournée à Lyon, Rennes, au Luxembourg, à Liège, Madrid, Berlin, Montréal et Québec, puis sera montrée en Asie. Le texte couronné du prix Transfuge est paru chez Actes Sud. La vérité, suivi d'Enfance Archive, paraîtront le 23 avril prochain dans la même maison d'édition. Votre mise en scène de La vérité sera au Théâtre National de Strasbourg du 23 au 30 avril, puis à Paris au Théâtre de la Ville du 2 au 15 juin. Et enfin, à partir du 9 avril, la Schaubühne de Berlin vous consacrera un cycle avec notamment les spectacles Lacrima et Saïgon. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Ludovic Asselot.